Je vous propose que nous commencions par la lecture de cette séquence qui correspond donc au procès de Jésus autour du prétoire, donc qui commence au chapitre 18, verset 28, et qui s'achève au chapitre 19, verset 16. Voilà, donc vous avez le texte sous les yeux pour que je viens de faire passer. Et pour savoir quel est le début et quelle est la fin, c'est lorsque dans le texte grec, il y a la référence tout à la fin. Donc ça, c'est le verso. Et le recto, c'est là où il n'y a aucune mention de... J'avais pas la place, en fait, ça tenait pas. J'ai dit que vous vous en sortiriez. Est-ce qu'on peut prendre la lecture, puis vous pouvez vous relayer. Donc on lit jusqu'au chapitre 19, verset 16. Oui.
Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent : Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent : Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus leur avait dite lorsqu'il leur indiqua de quelle mort ils devaient mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit : Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs sont livrés à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque, est-ce la vérité ? Je vais passer la parole à quelqu'un. Mais la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller voir les Juifs et il leur dit : Je ne trouve aucun crime en lui.
Mais comme c'est parmi vous les coutumes que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent : Non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats pressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait : Salut, roi des Juifs ! Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs : Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit : Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent : Crucifie, crucifie ! Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus : D'où es-tu ? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit : Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Voilà, je vais reprendre. Pilate lui dit : Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? Jésus répondit : Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient : Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent, « Hôte, hôte, crucifiez-le !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. »
Oui, quelqu'un peut prendre juste le verset 16.
Alors que leur livra pour être crucifié, ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent.
Merci. Bien. Je vais commencer par vous donner des indications sur ce qui fait la singularité du récit de Jean par rapport aux autres évangiles synoptiques. Parce que ça, vous n'allez pas pouvoir les trouver à part en faisant un long travail fastidieux que d'autres ont fait avant vous, donc ce n'est pas la peine de le refaire. Et puis on va voir aussi ce qu'il y a de commun. Jean, comme les autres évangiles, est obligé de respecter quand même certaines grandes étapes, de façon à ce que l'on reconnaisse que cet épisode est bien l'épisode dont parlent les autres évangélistes. Donc il y a effectivement l'arrestation de Jésus, il y a la comparution devant le grand prêtre, la comparution devant Pilate, il y a le reniement de Pierre, il y a la crucifixion, il y a l'ensevelissement, et puis il y aura le tombeau vide et l'apparition du ressuscité. Donc, on parle bien de la même chose. Néanmoins, l'évangile de Jean va se singulariser de bien des manières. Si on remonte un petit peu avant, au moment du dernier repas, il se singularisait par le fait qu'il n'y a pas le récit d'institution de la scène. En revanche, il y a peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas, il y a le détail des paroles qui ont été échangées au cours du repas. Donc, pas de récit de l'institution de la scène, en revanche, les discours d'adieu. Ensuite, ce qu'on ne trouve pas dans l'évangile selon Jean, c'est le procès de Jésus devant le Sanhédrin réuni. Il est présenté au grand prêtre, Caïphe, mais on ne dit pas que le Sanhédrin interroge Jésus. Il n'y a pas eu, au moment de l'arrestation, ou juste avant, de prière de Jésus à Gethsémani. Vous savez, cette agonie, ça ne figure pas dans l'évangile selon Jean. Dans l'évangile selon Jean, c'est dans la suite du récit qu'on verra peut-être après, s'il nous reste du temps, il n'y a pas Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix. Il n'y a pas de raillerie à l'égard du crucifié. Ces deux détails sont importants parce que ça signifie que Jésus est seul à porter sa croix et ça signifie que les outrages qui vont lui être causés ne suffisent pas à provoquer la raillerie du peuple. C'est-à-dire que, pour vous le dire tout de suite, l'idée de Jean, c'est que ce qui est infligé à Jésus ne va pas faire autre chose que de le glorifier. Donc les railleries seraient contraires à l'esprit de la glorification de Jésus. Ensuite, au moment de la mort de Jésus, il n'y a pas de prodige tellurique, symbolique, vous savez, avec les morts qui sortent des tombeaux, etc., le tremblement de terre, l'obscurité. Il n'y a pas ces phénomènes surnaturels. En fait, avec l'évangile de Jean, on a un récit vraiment pétri d'humanité et qui va s'efforcer de mettre à jour ce que Pilate va désigner comme l'humanité du Christ. On l'a entendu, voici l'homme, c'est l'humanité. On y reviendra, c'est anthropos. C'est pas andros, le mec, c'est anthropos, l'homme au sens de l'humanité. Ensuite, il y a des différences notables. C'est l'ajout de dialogue. Comme d'habitude, Jean cause. Il est volubile. les récits de Jean sont remplis de paroles qui ne figurent pas dans les évangiles synoptiques. Au moment du récit de l'arrestation, mais plus encore pour la comparution devant Pilate. Et puis après, il y a une discussion autour de ce qu'on appelle le titulus. Le titulus, c'est le petit écriteau qu'on met au sommet de la croix. Il va y avoir une discussion sur la justification de ce titulus, de ce titre qui est infligé à Jésus. Et cette discussion est spécifique à Jean. Quelques éléments propres à Jean encore, c'est-à-dire des détails qui ne figurent pas par ailleurs. La tunique sans couture, c'est chez Jean qu'elle apparaît, la tunique sans couture, la tunique d'une seule pièce, ce qui fait qu'on ne peut pas se la partager. Ça permet d'accomplir une prophétie. Il y a le dialogue avec la mère et le disciple bien-aimé au pied de la croix. Le Stabat Mater, c'est spécifique à Jean. Il y a des paroles du crucifié qui n'apparaissent pas ailleurs. Il y a une intervention de Nicodème qui ne figure pas ailleurs également. Et puis, on le verra au moment de Pâques, la fois prochaine, il y a une importance accordée à Marie-Madeleine, et puis il y a une course au tombeau, etc. Mais ça, on le verra la fois prochaine. Bien. Maintenant, on va entrer dans le texte lui-même, et on va essayer de le faire causer. Alors, je vous rends attentif au fait que c'est un récit. C'est une narration. On n'est pas dans une parabole, on n'est pas dans un discours métaphorique, on n'est pas dans un discours d'adieu. On est dans un récit. Et donc, je vous donne ce tuyau-là. Quand on veut étudier un récit, on peut faire comme on le ferait pour une pièce de théâtre. C'est-à-dire se poser la question des lieux, la question des personnages et la question des temps. Et ça, ça nous permet de pouvoir mettre en évidence l'intrigue du récit. Et si on réfléchit au lieu où se déroulent les actions, qu'est-ce qu'on a comme lieu ? Est-ce que vous, à la lecture de ce qu'on a entendu, vous avez un peu le... Vous pouvez repérer quels sont les différents lieux. Voilà. Intérieur, extérieur. Et au fond, ça va être décisif parce que l'intérieur va être le lieu de la révélation et l'extérieur va être le lieu de l'accusation. Et on va le voir dès le départ, c'est étonnant, parce que les Juifs refusent d'aller à l'intérieur, de peur de se souiller. Et c'est là que l'évangile de Jean dans ce récit, de mon point de vue, c'est le mieux écrit. C'est que l'ironie joannique, elle est là, notamment. Les Juifs refusent de rejoindre le lieu de la révélation. Ils restent extérieurs à la révélation. C'est-à-dire que l'évangile de Jean est en train de s'achever sur le constat de départ. En fait, c'est l'explication du prologue de Jean. La lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. C'est-à-dire que les Juifs, c'est le terme de Jean, c'est pour ça que je l'utilise, ça n'a pas du tout d'aspect péjoratif dans ma bouche. Les Juifs refusent de se rendre là où la révélation va se manifester. En revanche, et c'est là encore l'ironie, c'est que ne voulant pas se souiller, ils vont incriminer Jésus. En restant à l'extérieur, c'est le lieu de l'accusation. Est-ce que c'est pas une souillure plus grande, ça, d'accuser injustement un innocent ? Ça va être... Donc, l'extérieur, c'est le lieu de l'accusation, c'est le lieu de l'hostilité et le lieu de la haine. On se souvient que Jésus avait préparé ses disciples à cela. L'amour face à la haine du monde. Eh bien, lui va le vivre pleinement et il va montrer comment il réagit à cette haine du monde. Ensuite, il y a le temps de l'action. Le temps. Qu'est-ce qu'on apprend du temps ? C'est au moment de la Pâque, même plus spécifiquement de la préparation de la Pâque. Et il y a la mention du matin. Alors ce sont deux mentions qui sont extrêmement importantes. On les prend dans l'ordre où vous les avez évoquées, la préparation de la Pâque, la sixième heure, donc midi, c'est le moment où on va préparer l'agneau. Dans la préparation de la Pâque, c'est on prépare l'agneau de Pâques, l'agneau immolé en quelque sorte. Et vous vous rendez compte que cette indication est donnée au moment où Jésus est prêt à être crucifié. C'est-à-dire que c'est une très belle évocation, très belle par sa composition littéraire, du fait que Jésus est l'agneau pascal. C'est-à-dire que ça redit ce que Jean le Baptiste annonçait, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Alors, j'en profite pour vous développer cette idée-là autrement que dans une logique sacrificielle. L'agneau qui ôte le péché du monde, c'est celui qui va montrer comment se tenir face à l'injustice et face à la violence, notamment la violence collective. Ôter le péché du monde, c'est d'abord débusquer les mécanismes de la violence et ensuite proposer une alternative en termes de comportement. Est-ce qu'il est possible d'opposer quelque chose à la violence pour essayer de mettre fin à la violence? C'est ce que Jésus va proposer dans ce récit. Donc c'est en ce sens, me semble-t-il, que Jésus ôte le péché du monde. Ce n'est pas en se sacrifiant, en mourant pour les autres. Il n'empêche que c'est le moment où on va sacrifier l'agneau, où on prépare l'agneau au sacrifice. L'agneau était sacrifié au moment de la Pâque. La Pâque, c'est une double fête. C'est la fête qui célèbre la libération d'Égypte, donc c'est la sortie de l'esclavage. Et puis, c'est aussi l'entrée en terre promise. Donc, c'est l'accès au royaume de Dieu, pour reprendre la terminologie du Nouveau Testament. Ensuite, le matin. Le matin, ça, c'est ce que l'on trouve au début du récit. C'est le verset 28. En fait, c'est mieux que le matin. C'est proï. Proï, c'est l'aube. C'est l'aurore. C'est-à-dire que c'est le moment où la nuit cède devant le jour. C'est à la fois le matin de Pâques et c'est tout simplement le moment où, je vous le dis comme ça philosophiquement, on sort de la grotte de Platon, on accède à la lumière qui met en évidence la vérité. Mais je préfère la formule poétique, c'est le moment où la nuit cède devant la lumière ou devant l'aurore. Donc l'arrestation s'est faite de nuit, c'est une façon de dire que les magouilles se font toujours de façon maquillée. Et puis l'aube qui se lève, eh bien c'est le procès devant Pilate qui marque le début de l'accomplissement. Vous voyez, quand Jésus est présenté au grand prêtre Caïphe, on est encore dans la nuit. C'est-à-dire que le grand prêtre qui est là pour révéler le divin passe complètement à côté de sa mission. C'est Pilate, celui qu'on estime le moins en fait, qui s'avère être le meilleur instrument de Dieu, peut-être le lieu tenant de Dieu. On pourra même montrer en quoi Pilate est vraiment l'agent de la providence divine. Oui.
Cet agneau de Dieu, vous pourriez développer un peu ce...
La femme de Pilate.
Je comprends mal de la part des Juifs.
En fait, quand le peuple hébreu doit sortir d'Égypte, il reçoit pour consigne que chaque famille devra tuer un agneau et le manger, et utiliser le sang de cet agneau pour le mettre sur le chambranle de la porte, ce qui sera le signe de reconnaissance que cette famille doit être épargnée vis-à-vis de la dixième plaie d'Égypte, qui consiste dans le massacre des premiers-nés. Massacre des premiers-nés, c'est le terme que l'on a dans notre imaginaire populaire. Il s'agit bien des premiers-nés de chaque famille. Et donc, ceux qui seront dans les maisons dont le linteau a été badigeonné de sang ne seront pas pris par le machrit qui va passer. L'exterminateur, je ne sais pas comment l'appeler, comment le traduire, gardons le machrit. Et le premier-né, en fait, l'idée, c'est que le premier-né doit être offert à Dieu. C'est comme ça que ça se passe dans la Torah. Si ce n'est que ça se fait en principe par un processus de substitution. C'est-à-dire qu'on sacrifie un animal à la place. Hein, vous savez, on fait ça pour l'homme et on fait ça pour l'âne, qui est la métaphore animale de l'homme. Donc Jésus, par exemple, va être racheté en tant que premier-né avec deux pigeons qui seront sacrifiés au temple de Jérusalem. On a les récits dans les évangiles. les familles qui étaient plus aisées offraient des animaux plus gros. Et donc, l'idée de cet agneau pascal, c'est l'agneau qui indique notre appartenance au peuple libre. Il n'était pas interdit aux Égyptiens d'offrir aussi leur premier-né à Dieu autrement que dans une logique de la violence. Ce que je veux dire, c'est que cette prescription de l'agneau pascal n'était pas réservée au peuple hébreu. Le peuple égyptien aurait très bien pu lui aussi rendre gloire à Dieu. Dans la mesure où c'est une métaphore, cette histoire, c'est la métaphore de ce peuple qui refuse obstinément de s'orienter vers une dynamique de vie et qui ne s'en tient qu'à sa propre idéologie. Le pharaon s'auto-proclamant comme Dieu. Vous voyez, c'est dans cette logique-là que ça marche. C'est un texte qui dit ce qui arrive à ceux qui considèrent qu'ils sont auto-fondés, que mon existence ne tient pas, que mon existence ne se fonde pas dans votre existence. Alors qu'en fait, je suis quelqu'un grâce à vous notamment, grâce à d'autres aussi. Vous n'êtes pas mon Dieu non plus, je veux dire.
La femme de Pilate était une amie de Jésus.
Alors, la femme de Pilate était une amie de Jésus dans les apocryphes. Pas dans les évangiles. C'est pas manifeste. Dans Eric Emmanuel Schmitt, oui, alors là, beaucoup, beaucoup. Elle est même devenue fan. Ensuite, il y a les protagonistes. On peut s'intéresser à ceux qui font les actions. Donc, il y a le grand prêtre et les juifs qui sont autour de lui, qui sont ceux qui reprennent toujours l'initiative. C'est eux, en fait, qui vont conduire l'histoire, qui vont en permanence revenir à la charge quand ils voient que le scénario ne se passe pas comme ils espéraient. Ils vont remettre une couche sur l'accusation à chaque fois. Ils vont, en fait, faire en sorte que l'histoire soit orientée vers la condamnation de Jésus.
Alors,
oui.
Tout à fait au début, là, ils envoient un terme pour répondre à Pilate, et lui, au verset 30, ils disent, ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur,
oui.
Ils ne leur ont pas livré. Je rapproche ça du qualificatif de Barabbas au verset 40. Or, Barabbas était un brigand.
Oui.
Donc, un brigand, ça mérite d'être crucifié, mis à mort, et un malfaiteur. Ça me semble, ce terme m'interpelle, parce que malfaiteur dans notre signification courante, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, on a fait quelque chose de pas bien, mais qui ne mérite pas la condamnation suprême. Alors, je m'interroge sur la traduction.
Ouais. En fait, malfaiteur, c'est le terme le mieux traduit de ce passage. Parce qu'en grec, ça désigne kakon poion, faire mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la meilleure traduction qui soit. Malfaiteur, c'est celui qui fait mal. La question, c'est qu'a-t-il fait de mal ? Alors, et brigand, c'est le terme, donc c'est l'estès, c'est au verset 40. C'est le terme que l'on avait déjà entendu au chapitre 10 au sujet des brigands qui vont dans la bergerie. Qui sont avec les voleurs. Il y a les voleurs, les kleptomanes, et puis les brigands. Donc, c'est deux qualificatifs différents, mais tu as tout à fait raison de le relever. Ce qui est intéressant avec malfaiteur, c'est comme si on avait celui qui fait mal, mais qui ne fait pas le mal. Vous voyez celui qui n'arrive... Alors, c'est celui qui fait une tâche... Mais la tâche n'est pas complètement réussie, en quelque sorte. Si ce n'est que kakos, ça désigne quand même quelque chose qui fait mal aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un aspect nuisible. Et en quoi Jésus a-t-il été nuisible ? Et en fait, c'est ça. C'est eux qui subissent le mal.
On essaie de se placer sur ce qu'on connaît de la loi juive.
Oui.
On se place dans le type des Romains, ces deux termes pour les Juifs, on a l'impression que malfaiteur et brigand, c'est presque la même chose. Enfin, condamnable de la peine maximum. Mais comme les Juifs ne peuvent pas crucifier, donc il n'y a pas ce baigneur aux Romains. Donc pour les Romains, un malfaiteur et un brigand, c'est, il me semble qu'il y a une différence quand même de...
En fait, il y a une montée en tension pour passer de malfaiteur qui est au bas de l'échelle jusqu'à brigand qui va être un peu au sommet. C'est qu'en fait, comme je disais, les Juifs vont être obligés d'en remettre une couche à chaque fois parce que Pilate ne va pas cesser de clamer l'innocence. Du coup, ils sont obligés de rehausser le niveau de nuisance de Jésus. Mais on va finir en fait sur une autre ironie de Jésus, enfin de Jean, je veux dire. C'est que un brigand va être libéré et un innocent va être condamné. Donc ça montre le côté perverse de la logique des Juifs. Je ne dis pas du judaïsme, mais des Juifs, là, dans ce texte. Et le brigand, c'est d'autant plus ironique que dans Jean 10, c'était celui qui s'en prenait au troupeau, donc au peuple. C'est-à-dire que ceux qui sont responsables du salut du peuple vont lâcher le fauve dans la bergerie. Donc, vous voyez, elle est là, l'ironie. Mais il y avait besoin de cette escalade pour non pas requalifier Jésus, mais pour requalifier le crime de ces Juifs-là.
Mais Barabbas était un zélote.
C'est possible, oui. C'est-à-dire que les zélateurs de la foi, les zélotes, ce sont ceux qui voulaient organiser le coup de poing, c'est-à-dire qu'ils voulaient une libération. Voilà. Ils voulaient une libération par la force. Et c'est ça qui est d'autant plus paradoxal, c'est que du coup, Pilate libère quelqu'un qui, manifestement, s'en est pris aux intérêts de Rome. Pourquoi ? Parce que le grand prêtre lui dit, si tu ne le libères pas, tu ne seras pas l'ami de Rome, parce que tu considères que celui qui est roi a toute sa place là. Or, il n'y a qu'un seul roi, c'est César. Les Juifs vont dire ça, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus le dieu des dieux, maintenant c'est César. Enfin, voilà. C'est-à-dire que là où Jésus n'arrête pas de monter, les Juifs n'arrêtent pas de descendre. Et comment ce processus se fait ? Il se fait de manière ironique. C'est que les Juifs font monter le niveau d'accusation. Et en faisant monter le niveau d'accusation, en fait, ça retombe sur eux. Et donc, ça les enfonce. Alors, je vous rends attentif, du coup, maintenant avec cela, à la structure, je pense, que Jean a donnée à son texte. C'est encore une structure en parabole, avec des éléments qui se répondent, avec justement un jeu sur intérieur-extérieur. Donc, si vous voulez noter une proposition de découpage, vous allez l'organiser comme ça. Donc, il y aurait ici la partie A. À l'extérieur, c'est le chapitre 18, les versets 29 à 32. C'est les Juifs et Pilate, et il y a la mise en accusation. Ensuite, en face, à prime, donc toujours à l'extérieur, c'est les Juifs qui manipulent Pilate, et c'est encore une accusation, c'est chapitre 19, versets 13 à 15. On va prendre les extrêmes au fur et à mesure et on va arriver au centre. Ensuite, la scène B, ça serait à l'intérieur, au chapitre 18, les versets 33 à 38a, c'est Pilate et Jésus qui dialoguent sur la royauté. Donc la scène B à l'intérieur, c'est chapitre 18, versets 33 à 38a. Et en face, en B', vous auriez au chapitre 19, les versets 8 à 12, à l'intérieur, Pilate et Jésus qui discutent de la réalité du pouvoir. Vous voyez, c'est très cohérent au niveau des thèmes. Ensuite, la scène C, à nouveau à l'extérieur, au chapitre 18, les versets 38b à 40, c'est Pilate et et Jésus avec une vaine tentative pour relâcher Jésus. Et puis en face, en C', le chapitre 19, les versets 4 à 7, toujours à l'extérieur, Pilate qui présente Jésus comme innocent. Et du coup, il y a une scène qui est centrale, c'est la scène D. C'est au chapitre 19, les versets 1 à 3. C'est dans le prétoire, c'est la scène de dérision. Et parce qu'on est dans l'ironie johannique, la scène de dérision, qui est donc l'axe central, le pivot, le sommet, hein, le chapitre 19, les versets 1 à 3 dans le prétoire, la scène de dérision, parce qu'on est dans le registre de l'ironie, ça va être la scène d'intronisation du roi. C'est-à-dire que c'est de la dérision, et comme c'est dans l'ironie, la dérision devient une proclamation, une attestation, une glorification, une élévation, un sacre. Vous voyez ? Une dérision avec un registre ironique, ça devient non pas, ça devient l'inverse, donc ça devient un sacre.
Battre comme Jésus, comme innocent.
Oui.
Mais il a fait quand même battre deux verges.
Oui. Il y en avait 40. Très bien. On en
reparle.
Oui, on y viendra. À mon avis, c'est encore une manière pour lui de dire bon, ben voilà, il a été puni, maintenant on le relâche. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu le dire, ça se fait avant la sentence, alors que dans les évangiles synoptiques, ça se fait après. Donc après, ça fait je l'humilie. Mais il n'y a pas d'humiliation là chez Jean. En revanche, parce que c'est avant la sentence, je crois que c'est un subterfuge de Pilate en disant, ben voilà, il a été puni, maintenant on peut le relâcher. Il a eu ce qu'il méritait. Quelqu'un qui fait mal, on lui donne une fessée, quoi. Avec des... ce que vous voulez.
À propos de l'affirmation des Juifs,
oui,
qui disent, notre loi ne permet pas de mettre à mort. Je ne sais pas, il me semble qu'il y a de non... Alors, pas crucifié, enfin, par rapport à la crucifixion. Mais il me semble que dans la Bible, il y a de nombreux récits d'affirmation.
Bien sûr. La femme adultère au chapitre 8 de l'évangile de Jean.
Donc il me semble que c'est vraiment de la mauvaise foi, c'est une hypocrisie.
Bien sûr. Mais ils ont raison de dire que la loi ne permet pas de tuer Jésus, parce que Jésus n'a rien fait. Et que la loi ne permet pas de tuer un innocent. Et du coup, ça met en évidence cette mauvaise foi. Tu as complètement raison. C'est ça qui est magnifique dans l'évangile de Jean. C'est qu'il fait dire juste aux différents protagonistes, mais ils disent une vérité qui leur échappe. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est que Jésus soit condamné et qu'il soit mort. Mais ils sont aussi porteurs de cette Torah. Et ils ne peuvent pas aller contre leur conscience dans une certaine mesure. Vous voyez ? Et au fond, comment ils font ? Eh bien, c'est eux qui s'en lavent les mains et qui vont remettre ça dans les mains de l'autorité romaine, Pilate. Mais il y a autre chose. Tu as raison de rappeler les lapidations. C'est-à-dire qu'on aurait pu, j'imagine, trouver un motif pour lapider Jésus. D'ailleurs, c'est ce qui se passe tout au long des évangiles. Il est sur le point de se faire lapider. Mais le problème, c'est que s'il avait été lapidé, le geste de lapidation l'aurait fait s'écrouler. Et après, il aurait fini dans le ravin. Là, il est élevé en croix. Qui est un geste de glorification. C'est-à-dire qu'il y a encore une ironie. Si les Juifs avaient pris leur responsabilité, une fois de plus, quand je dis les Juifs, c'est-à-dire les sacrificateurs, etc., de cette époque-là, et pas le peuple juif. S'ils avaient pris leur responsabilité, Jésus aurait disparu, tout simplement. Mais là, il est montré à la face du monde, en fait. Vous voyez, il est élevé en gloire. C'est encore ironique. C'est-à-dire qu'en fuyant leur responsabilité, eh bien, du coup, ils ratent leur objectif. Et ce qu'ils voulaient effacer devient ce qu'il y a de plus manifeste. C'est l'effet Barbara Streisand. Barbara Streisand qui... n'est pas contente d'une information diffusée sur elle, qui du coup va vouloir intenter un acte en justice pour que ce soit supprimé, et ça fait un tel tintamarre que du coup tout le monde est au courant. C'est ce qui se passe en général maintenant, vous savez, il y a un tweet malheureux sur vous, donc procès, etc., et du coup tout le monde est au courant du tweet, et donc tout le monde, enfin bon.
Voilà. Bon. Et la crucifixion, c'était réservée aux brigands, justement.
La crucifixion, oui, c'est le droit commun. Alors, il y a dans le Deutéronome un dispositif qui permet de pendre quelqu'un au bois.
Oui.
Donc on pourrait dire que ça relève de la crucifixion. Mais de fait, la crucifixion est un supplice plutôt romain. Et le territoire est occupé, donc qui a le droit de vie et de mort? Ce sont les Romains. Vous avez raison. Mais ce n'est pas la loi des Juifs qui leur interdit la mise à mort par rapport à ce que vous dites. Là, c'est simplement le droit romain qui dit « c'est nous les patrons ». Mais quand ils disent « notre loi ne nous permet pas d'eux », c'est la mauvaise foi évidente. Ouais, très hypocrite.
On peut comprendre que ce récit ait été un des véhicules principaux de l'antisémitisme au travers de la Bible.
Les Juifs perfides, comme c'était évoqué au moment du Vendredi Saint dans quelques prières. Le peuple déicide, si en plus on faisait de Jésus un dieu. Oui, bien sûr. C'est tout le problème de l'appellation les Juifs, les Yudaïoï de l'évangile selon Jean. C'est qu'on a l'impression que du coup, ça arrose tout le peuple. Alors, c'est pas impossible que dans l'esprit de Jean qui écrit en 90, bien après que les chrétiens ont été expulsés de la synagogue, il y ait une sorte de responsabilité collective qu'il veut infliger aux Juifs. Mais quand on regarde le détail de l'histoire, et au fond, l'évangile de Jean est celui qui est le plus précis peut-être par rapport au détail de l'histoire, on voit bien que c'est pas l'ensemble du peuple juif qui est concerné là. Ce sont des responsables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu d'engager la responsabilité collective du peuple juif. Donc on n'a pas à attendre une sorte de mea culpa collectif et un autre acte de contrition. Oui.
A contrario, ce qui me frappe, c'est la bonne image de Pilate en Romain. Ce qui m'a fait remarquer, ça a été écrit dans les années 90, après les persécutions de Néron. Donc il y a quand même là quelque chose qui honore le peuple romain à travers.
Non, il y a quelque chose qui honore Pilate. De même qu'on ne va pas faire reporter la faute de quelques-uns sur l'ensemble, on ne va pas faire reporter le bienfait d'un seul sur l'ensemble non plus. Par contre, ce qui est juste, c'est de dire que un païen est capable d'être le vecteur de Dieu. Quelques centaines d'années avant Karl Barth. Oui, la communauté de Rome existe, bien sûr.
Est-ce qu'on ne peut pas dire, quand même, contre Pilate, enfin, que sa principale préoccupation, c'était que sur le territoire qui lui était confié, il n'y ait pas de révolte.
Bien sûr. Donc il a... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait à Jérusalem? Il n'habite pas à Jérusalem, Pilate, en principe. Il vient là parce que, justement, c'est la fête de Pâques. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut éviter les débordements. Il veut pas que le boulevard et l'avenue soient dévastés par des fêtards un peu trop... Enfin, qui n'ont aucun rapport avec la fête, d'ailleurs. Avec des gens qui viennent là pour casser les pèlerins.
Il est diplomate.
Il est... Oui, enfin, il fait son job de maintien de l'ordre, etc. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi les Juifs disent qu'on ne peut pas entrer dans cette maison parce qu'ils ont peur d'être souillés? Alors, c'est pas une histoire de sabbat, parce que le sabbat fait qu'on peut rentrer dans une maison, c'est pas un travail en soi. La souillure, elle vient... Alors, je vous le donne, c'est... faut juste que je le retrouve. Ouais, le traité Ohalot 18... C'est que les demeures des non-juifs sont réputées impures parce qu'ils ont la réputation d'y enterrer les fœtus des morts-nés. Voilà. C'est sur cette réputation-là. Mais comment dire, c'est un principe de précaution. C'est-à-dire que tout le monde le fait. Mais il y a cette possibilité. Alors du coup, pour éviter d'être souillé, eh ben, on est dans le radicalisme. C'est la raison pour laquelle les juifs orthodoxes ne serre pas la main des femmes. Parce que peut-être est-ce le moment de leurs règles, mais les femmes n'ont pas leurs règles 28 jours sur 28. Bon. Mais principe de précaution, abstinence totale. Euh, Et contrairement aux évangiles synoptiques, les Juifs donc n'ont pas encore mangé la Pâque. Hein, ils en sont dans le temps de la préparation. Alors, les versets 29 à 32. Donc, je vous ai dit que c'était la séquence A. Donc, on a vu la question du mal faire au verset 30, Kakon Poyon. Donc, c'est une accusation assez imprécise, hein, qui relève un peu l'embarras des accusateurs. Il a mal fait. Ça te dit rien, c'est il a mal fait. Quand on dit à quelqu'un, t'as mal fait, on lui dit au moins quel est l'objet, quel est le problème, là où il y a un décalage, en quoi les objectifs n'ont pas été atteints. Mais là, c'est un malfaiteur. Bon, on dit ça, on dit rien, quoi. Donc, accusation assez inconsistante. À mon avis, là, c'est un non-lieu prononcé par le parquet, hein. Et du coup, au verset 31, on voit que Pilate est sur le point de les renvoyer. Hein, et il est entendu que seule l'autorité romaine peut ordonner quelque mort que ce soit. Les Juifs leur dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Et donc ça, c'est effectivement le fait que ce sont les Romains qui gouvernent. C'est eux qui ont un droit de vie et un droit de mort. En principe, il y a des témoins dans les procès. D'ailleurs, dans les évangiles synoptiques, il y a les faux témoins. Parce qu'on ne peut pas accuser sur la parole d'une personne. Il y a le principe de pluralité qui l'emporte. Mais il n'y a pas d'avocat de la défense, non. Pourquoi faire ? Et la personne est là pour se défendre. Ouais, non, mais là, il s'agit. Là, il n'y a pas de barreau, là, c'est les verges. Au verset 32, il y a le premier commentaire du narrateur. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Et donc, c'est la glorification, hein, le verset 32. C'est que justement, si ce sont les Romains qui vont s'occuper de lui, il n'y aura pas de lapidation. Et donc, il pourra être comme les serpents d'airain brandis. Du temps de Moïse, ouais, dans le désert. Et brandir les serpents d'airain, c'était sauver ceux qui voyaient le serpent d'airain. Il y a cette idée-là. Parce que Jésus est brandi au bout d'une croix, alors nombreux sont ceux qui pourront être sauvés. C'est un salut par la pédagogie, c'est pédagogique cette affaire. Hein, c'est le fait d'être au contact avec un enseignement, avec une proclamation qui nous sauve. C'est pas magique cette affaire. Donc si les Juifs l'avaient exécuté pour blasphème, il aurait été lapidé et ça aurait été la chute. Là, c'est l'ascension.
Est-ce qu'on peut, à propos de Jésus, poser la question, pourquoi est-ce que le Sanhédrin et les Juifs n'avaient pas pensé à ça ? Ils réclament qu'il soit crucifié, donc il y a toute la symbolique que tu viens de dire, et pourquoi est-ce que le Sanhédrin n'avait pas pensé à ça ? C'était pas dans leur psychologie.
Ils veulent s'en débarrasser.
Ça signifie qu'ils sont aveuglés par leur haine.
Voilà.
Du coup, ils ne peuvent pas. L'intelligence la plus grande que l'on déploie, c'est selon la logique de l'amour. Mais dans la logique de la haine, pourquoi est-ce que l'intelligence ne peut pas donner toute sa mesure ? Parce qu'en fait, on n'arrête pas de mettre en place des blocages. Et ces blocages-là bloquent aussi l'intelligence, notamment l'intelligence de la situation. La peur, par exemple. La peur, elle nous tétanise pour une part, et du coup, elle nous empêche d'embrasser une situation dans son intégralité. Et là, les Juifs ne voient pas les conséquences de leur acte. C'est pour cela que tout le récit est sous l'angle de l'ironie, c'est qu'ils sont détenteurs d'une vérité qui leur échappe complètement. Et notamment là, sur la conséquence au niveau de la gestuelle. Il ne mesure pas, en fait. Oui.
Si à cause de la parole, maudit soit celui qui est vendu au roi.
Ah.
Qui réclame la crucifixion.
Crucifixion.
Oui.
Oui, peut-être que pour eux, oui. Oui, auquel cas, ça serait leur littéralisme qui serait mis à mal. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, ça sera vraiment un moyen de le maudire. Sans se rendre compte qu'en fait, il y a une autre symbolique qui va surpasser cela, oui. Oui, Marie-Lou ?
Oui, qu'est-ce que c'est la référence à cette parole que Jésus aurait dit lorsqu'il indiqua de quelle mort il est mort ?
voulez un verset particulier, hein, c'est ça?
Je ne sais pas, ça a l'air d'être évident.
Mais c'est parce que souvent, il est là à dire qu'il faut que le Fils de l'homme souffre, et qu'il y a le signe de Jonas avec le fait que le troisième jour, il doit... Ouais. Je regarde rapidement. On va. Alors, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, au verset 32, « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Voilà. Et donc, vous voyez, il y a ce double sens. C'est à la fois physiquement, et puis en fait, symboliquement. Quand je disais glorification, c'est élévation aussi. Donc, c'est en ce sens qu'il annonce de quelle mort il devait mourir. Ça marche. 12-32, c'est bon, ça. Ouais. Okay. Et 33, nous dit Jean-Claude aussi. Ensuite, on continue cette fois dans le sens du texte, donc les versets 33 à 38a. Donc, c'est les questions de Pilate. Il y a une accusation contre Jésus qui se prétend roi. Il y a une définition négative de la royauté et une définition positive de la royauté. Donc ça tourne vraiment autour de la royauté, hein. Il y a 9 fois le mot roi, 3 fois le mot royauté, royaume. La question, c'est comment peut-on dire que Jésus est roi, en l'occurrence roi des Juifs? Parce que il y a une ambiguïté là, il y a un double sens. Parce que le mot roi n'a pas le même sens pour Pilate et pour les Juifs. Parce que pour Pilate, évidemment, ça a une connotation politique. Et si ça a une connotation politique, dans ce cas-là, Jésus peut être la cause d'une sédition. Il ne peut pas y avoir deux rois dans un même territoire. En revanche, pour les Juifs, c'est un aspect messianique. C'est bien sûr David. C'est la maison de David, selon l'oracle de Nathan, qui était installée à jamais sur le trône d'Israël. Et on attend que le Messie, enfin pour une part, on attend que le Messie d'Israël reprenne le trône de David et la royauté de David. Et donc, le titre « Roi des Juifs » a une connotation messianique pour Israël, qui désigne le libérateur, et puis une un sens politique pour Pilate. Et pour les chrétiens, eh bien en fait, ça devient l'objet d'une confession de foi. Jésus est roi, c'est la confession de foi primitive, on pourrait dire Seigneur si on veut. Et donc vous voyez cet imbroglio de sens autour de la notion de roi.
C'est la confusion roi-messie.
Oui. Parce qu'il y a le roi Messie, il y a le roi serviteur, le Messie serviteur souffrant. Il y a plusieurs figures de Messie qui se superposent avec Jésus ou que Jésus refuse. Et donc le roi Messie, c'est la figure que tout le monde espérait. Et Barabbas va incarner cette figure.
Dans l'épisode des rameaux,
oui.
C'est le roi qui est plutôt...
Oui, oui. Voici ton roi qui vient à Jérusalem, dans la prophétie de Zacharie.
C'est le roi au sens où nous l'entendons, ou c'est déjà le Messie dans l'esprit des Juifs?
Mais le roi est Messie. David est Messie. Saül est le premier Messie. C'est-à-dire que le roi, c'est le Messie au sens où il reçoit l'onction. Donc il est Christ. Hein, Messie, c'est le mot hébreu Machiar. Christ, c'est le mot grec, qui est la traduction de Machiar, donc celui qui reçoit l'onction, et le roi est Messie, c'est-à-dire que le roi, c'est Dieu à l'œuvre parmi les hommes. Donc, Saül est Messie, David est Messie, Salomon est Messie, tous les rois sont Messie, s'il est roi, il est Messie. On manque de mots. Bah, le roi Messie, c'est bien comme expression. Ouais. Non, non. Donc, allez-y.
Sur la forme interrogative qui est particulièrement vivante dans ce texte et qui soulève à chaque fois les ambiguïtés, les doubles plans, les doubles logiques séculaires et messianiques, etc.
Oui, et puis on ne répond pas aux questions en plus. C'est-à-dire que il fait son pasteur, Jésus. C'est-à-dire que Pilate lui pose une question, et le texte dit « il répondit », et il répond par une question. Enfin, un type comme ça, moi je lui donne des coups de verge. Hein.
Non, une question aussi vivante que Jésus, qu'on voit sous cette envergure, est-ce de toi-même que tu dis cela? C'est particulièrement subtil et ça ouvre des plans entiers de l'interrogation. Alors, je ne sais pas si c'est l'auteur, c'est Jean ou les autres qui ont choisi cette forme de pédagogie.
C'est forcément Jean. Personne n'était là, dans le prétoire. C'est pas Pilate qui va raconter aux évangélistes comment ça s'est passé. Alors, peut-être qu'il y a quelques soldats et que les soldats pourront être témoins, c'est possible. Mais. A priori, c'est plutôt Jean qui construit. Vous avez vu comme c'est bien fichu, cette structure. Que fait Jésus? Il fait son travail de Messie, c'est-à-dire il place Pilate face à sa responsabilité, donc face à sa conscience. Au fond, es-tu vraiment un homme libre? C'est-à-dire libre de pouvoir t'exprimer sur mon compte? Ce que tu dis, c'est de toi ou c'est quelqu'un qui l'a mis dans ton oreille? Es-tu vraiment un homme libre? Et du coup, si tu me condamnes, est-ce que tu me condamnes librement ou est-ce que tu n'es que un maillon d'une mécanique implacable? C'est le travail de la prière dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que Pilate est vraiment dans le registre de la prière en se tenant face à Jésus. Certainement, y a-t-il là quelque chose qui ressemble à tous les dialogues que les uns et les autres ont pu avoir avec Jésus, notamment Zachée? Pourquoi est-ce que Zachée se convertit? Peut-être que Jésus lui renvoie quelques questions intéressantes. Et au fond, peut-être que Jésus fait le vrai travail des amis, au sens de aider à atteindre un niveau de vérité qui n'est pas simplement ce qui nous fait plaisir à entendre, mais ce qui est vrai et juste. Oui.
Manifestement, Pilate était au courant, quand il dit à Jésus, es-tu le roi des Juifs? C'est donc, il était au courant des arguments du Sanhédrin.
Oui, oui. Oui, il a ce petit dialogue au début où Caïphe conduit au prétoire, et puis il y a peut-être plus que ce qui est rapporté dans l'évangile de Jean.
On a l'impression, si on s'arrête là, que il ne prenait pas cette accusation au sérieux.
Exactement.
Et donc, quand les Juifs ont fait le parallèle en disant « Mais attendez, le roi, c'est César », Pilate, à ce niveau-là, ne prenait pas du tout ça au sérieux.
La séquence, elle se finit sur le fait qu'ils disent « Je ne trouve aucun crime en lui ». Ah, oui. S'il prenait ça au sérieux, il se fait liquider sur le champ. Il ne peut pas y avoir deux rois comme ça. C'est à César, point. Quelqu'un qui se prétend roi, il se fait liquider.
Quant à la notion de Messie, César...
À cette époque, certainement, avec le syndrome de Jérusalem, il devait y en avoir tous les 15 jours des Messies qui se présentaient. Il y a des faux Messies, il y a des Lionel Messi.
Là, c'est envers Pilate.
Pardon? Il était d'une famille royale, mais il n'avait pas un statut de roi. Il était gouverneur. Enfin, non, il n'était pas gouverneur, c'était Pilate. On parle du roi Hérode, mais c'est qu'en fait, il faudrait plutôt parler du royaume d'Hérode, sans pour autant qu'il soit un roi. Et c'est le royaume des Iduméens, en fait.
Les Juifs considéraient Hérode comme roi? Roi Hérode?
Hérode aurait aimé être considéré comme roi, mais on voit bien qu'il a un rôle de pacotille dans cette affaire. Oui, sur le dos de Jésus. Non, mais on voit bien, par exemple, au moment de la naissance de Jésus, qu'on a le pouvoir de faire massacrer des enfants, donc d'organiser des pogroms aussi. Donc il y a un pouvoir de nuisance, effectivement. Mais disons que le pouvoir, déjà à cette époque, c'était le pouvoir de battre la monnaie, en fait. Et il n'y a que César qui est sur la monnaie, sauf dans le temple de Jérusalem avec les changeurs.
De toute façon, dans l'Empire romain, les Romains acceptaient, dans les territoires qu'ils avaient conquis, des rois locaux.
Oui, oui.
Souvent que les rois acceptent de faire comme
ça. C'est ça. C'était même plutôt intéressant d'avoir des relais et des collaborateurs. Mais Pilate ne voit aucune concurrence possible là. C'est-à-dire que Jésus n'a pas le trait royal, quoi. Il ne voit pas l'ombre d'un problème.
Oui, mais les Juifs le voient.
Quand les Juifs disent, le Juif si, le voit, pourquoi? Parce que les
Juifs. Si
ah oui, et encore donc les prêtres, etc. Enfin, c'est ce que je vous ai déjà dit à l'occasion. Ils voient le problème, c'est que Jésus pourrait très bien devenir le grand prêtre. C'est un vrai concurrent sur le plan du poste de grand prêtre. Et donc, ils vont décaler le problème. Ils vont.
En le supprimant, ils sont tranquilles.
Qu'ils pensent, oui. Que dire il y a un terme intéressant. C'est le verset 35. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ? En fait, c'est là qu'on voit que Jean n'est pas antisémite, au sens où il mettrait tout le monde dans le même panier. Ta nation. Ta nation, c'est to ethnos. Donc ethnos, en fait. Ethnos, ça ne désigne pas le peuple juif. Ce qui désigne le peuple juif, c'est laos. Laos, c'est peuple. Ce qui donne laïcité, d'ailleurs. Ethnos, c'est ce qui désigne l'organisation politique. En hébreu, c'est la différence entre ham, qui désigne le peuple, qui se fonde sur la structure familiale, et goy, vous connaissez les goïms, hein, qui se construit sur une structure politique. Et donc, le peuple de Dieu, c'est ham, ou laos. Ethnos, ça renvoie à l'organisation politique, au moment où le peuple dit « On aimerait bien avoir un roi, nous aussi, comme les autres nations, comme les autres ethnoïs, ou les autres goïms. » Et donc, quand on dit ethnos, ben en fait, ça renvoie du coup aux responsables qui, eux, sont vraiment coupables. Et donc, ça ne désigne pas le Laos, l'ensemble du peuple. Oui. Enfin, en tout cas, moi, j'y vois là une trace du non-antisémitisme johannique. Peut-être que je surinterprète, mais au moins, il y a matière à surinterpréter. Bien. Oh, bah, vous savez, la Knesset, ils se traitent de nazis. Hein. Parfois. Non, mais... Bon.
On peut se demander, dans ce texte, si Jean, en fait, est un peu comme un reporter. Et pas, c'est pas un témoignage. C'est un peu comme un reporter qui sera... journaliste.
Oui, mais un journaliste théologien quand même. Je veux dire, c'est un peu comme un journaliste de type Anna Arendt qui va à Jérusalem pour le procès de Eichmann. C'est pas simplement de pouvoir rendre compte de quelques faits, c'est de les mettre en perspective et de leur donner du sens. C'est pas du niveau des journalistes hier qui nous disaient que les livreurs de pizza étaient bien arrivés au Parc des Princes, quoi. Vous voyez ? Il y avait peut-être plus intéressant à évoquer comme fait journalistique. Donc oui, c'est une relation de type journalistique, mais qui donne du sens, qui interprète, qui organise la matière, et qui en fait, du coup, une œuvre. et qui donne matière à penser. Et c'est pas une dépêche de l'AFP, quoi.
C'est pas un témoignage.
Si, c'est un témoignage parce que c'est un rapport dans lequel le rapporteur s'implique. Donc c'est ça le témoignage. Il se donne. Si, je trouve ça relève du témoignage, mais pas un témoignage au sens où les faits, rien que les faits. C'est les faits mis en relation, mis en perspective, et du coup, les faits qui conduisent le lecteur sur la voie d'un sens possible, ou de plusieurs sens possibles. La dernière question de Jésus dans cette séquence-là, au verset 38a, qu'est-ce que la vérité ? Vous la comprenez comment, cette question ? Qui est hyper connu, hein, qu'on répète souvent. Oui, une sortie au sens, moi je dirais une sorte de dérobade, quoi. C'est en fait, on coupe court à la conversation. En général, quand quelqu'un nous dit ça, qu'est-ce que la vérité ? C'est, ouais, bon, allez, ça suffit maintenant, hein. On passe à autre chose. Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ?
Oui,
c'est
vraiment le verset
37. Oui. Oui, c'est Jésus qui dit ça, oui.
Quiconque est la vérité écoute ma voix. Alors, c'est entendu pour tout le monde ce que c'est que cette vérité-là ?
Ben, c'est dans Jean 10 qu'on se souvient que ceux qui écoutent la voix, ce sont les petites brebis, et qui reconnaissent le berger, et qui donc reconnaissent la vérité, qui savent ce qui est juste. Par opposition au faux berger d'Israël évoqué dans Ézéchiel 34, qui, en fait, dispersait le peuple. C'est une mise en abîme avec Jean 10, qui, du coup, est une pierre importante dans l'édifice johannique. On ne peut pas tout à fait se dispenser de Jean 10. Et bien, c'est là que Pilate fait son Jésus, c'est qu'il nous pose la question. Il nous répond en nous posant la question. Et nous, on se retrouve avec la question sur les bras. Et on essaie de ne pas s'en sortir simplement avec une pirouette. Ah, mais Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Donc on sait ce qu'est la vérité. En fait, la vérité, là, on voit qu'elle est dans l'ordre du dialogue. C'est que la vérité est en marche, pour paraphraser quelqu'un, et que rien ne pourra l'arrêter, en dépit de la volonté du Sanhédrin, du grand prêtre, etc. C'est-à-dire que la vérité, elle est processus ici. Elle est comme cette boule de flipper qui va taper quelques bumpers qui vont marquer des points et qui aussi sont dans des captures. C'est-à-dire que le Sanhédrin aimerait attraper la vérité et faire en sorte qu'elle ne ressorte plus. La vérité en grec, c'est quoi ? C'est aletheia. A, c'est le privatif. Ça veut dire ce qui n'est pas caché. Donc ce qui est mis à jour, ce qui est dans la lumière de l'aurore. Le Sanhédrin et le grand prêtre a travaillé dans la nuit, dans ce qui est caché. Il a fait son Nicodémite. Et là, en fait, tout est en train de sortir en pleine lumière. Et le travail de la vérité, c'est ça. Au fond, c'est un travail d'archéologie. Donc, il y a Barabbas qui va entrer en ligne dans la partie suivante. Enfin, qui va entrer ensuite. Mais, ouais, peut-être, je vous dis un petit quelque chose quand même sur la partie 38B40. C'est le moment où Pilate perd le contrôle de la situation. Hein, et une fois de plus, on l'entend dire qu'il ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Et là, ils tous disent non, mais Barabbas. Alors, c'est bizarre parce qu'en dehors des évangiles synoptiques, on ne trouve pas cette coutume de relâcher quelqu'un à la fête de Pâques. Ça semble être un trait spécifique aux évangiles. Bon.
Si Pilate reprend le motif de l'accusation des Juifs, s'il n'avait pas dit. Voulez-vous que je vous le relâche ? Alors, ça aurait coupé une partie de, de la prédication. Il dit, voulez-vous que je relâche le roi des Juifs, sachant bien que c'était ça qui était infamant pour...
Ah mais c'est tout à fait insultant cette histoire. Parce que s'il le désigne comme roi des Juifs, comme on le disait sur le plan politique, ça pose problème pour Pilate et pour les Juifs, mais c'est insupportable d'entendre quelque chose pareil.
Donc il était sûr de la réponse des Juifs.
Oui, oui. D'un autre côté, ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que c'était un bon stratagème, c'est-à-dire que ça permettait de sauver Jésus sans le déclarer innocent. Au fond, en utilisant cette bidouille de relâcher quelqu'un pour la fête de Pâques, on pouvait l'amnistier sans pour autant le déclarer innocent. Donc, une sorte d'arrangement entre ennemis qui deviennent amis sur le dos de Jésus. Il y a quelque chose que l'on ne trouve pas dans l'évangile de Jean, qu'on ne trouve pas dans les variantes de l'évangile de Jean. C'est que dans l'évangile de Matthieu, par exemple, si vous prenez un texte grec avec un apparat critique, vous verrez que selon les manuscrits, on connaît le prénom de Barabbas. Il est indiqué. Vous savez ce que c'est le prénom de Barabbas ? C'est Jésus. Jésus Barabbas. Vous savez ce que ça veut dire Barabbas en araméen ? Non, c'est dans l'évangile de Matthieu.
Le fils du Père.
Fils du Père. C'est intéressant, ça, quand même. Alors, on ne l'a pas dans Jean, mais je vous en parle quand même. C'est qu'on a Jésus, fils du Père, face à Jésus, fils du Père. Mais il y a deux façons d'incarner la filiation. C'est-à-dire que les deux Jésus ne sont pas fils de la même manière. Et au fond, celle qui plaît, c'est celle qui correspond au Jésus Messie roi. C'est-à-dire le fils violent, le fils qui montre que c'est un warrior. Alors que la figure du serviteur souffrant, la figure humble de Jésus, bah, ça marche moins bien. Ça, c'est moins mobilisateur. Ça ne fait pas très star. Vous voyez ? Alors, Barabbas, c'est tous les évangiles, mais Matthieu, c'est celui sur lequel il y a des variantes dans les manuscrits, où on trouve la mention de Jésus comme prénom à Barabbas, ou pas. Mais Barabbas, ça, c'est assez bien attesté.
Mais c'est pas un vrai. En fait, ça aurait pu être, voilà, pu s'appeler par Pampion. Donc, c'est pour remonter la dramaturgie du texte, qu'il y a deux fois Jésus Barabbas, fils du Père, avec deux filiations différentes. Donc, c'est juste propre à augmenter la dramaturgie. On aurait très bien pu l'appeler Robert, enfin, un nom de là-bas.
C'est carrément une tragédie grecque à Jérusalem. Et oui.
Et là, Jean ne parle pas de Pilate qui se lave les mains.
Non, mais Pilate ne se lave pas les mains. Là, je dirais qu'il ne se lave pas les mains au sens de la métaphore. Il fait tout pour sauver Jésus. Il s'y prend mal, peut-être. C'est-à-dire qu'effectivement, l'expression roi des Juifs, elle est malheureuse. Peut-être que s'il ne l'avait pas employé, ça aurait fonctionné. Mais n'empêche qu'il essaie quelque chose. Il ne se contente pas de dire, bon, très bien, allez, liquidons-le. Et on va voir qu'il est maladroit. Il est maladroit. Mais justement, le sommet, c'est la section suivante, le chapitre 19, les versets 1 à 3. La flagellation et la dérision. Donc, contrairement à Matthieu et à Marc, la flagellation n'est pas après la sentence. C'est un moment où, à mon avis, Pilate n'a pas encore renoncé à sauver Jésus. Et en le faisant flageller, il donne ici un gage de sa bonne volonté. Vous voyez ? Il fait quand même quelque chose contre Jésus. Et... Il livre Jésus à la violence des soldats, peut-être pour le sauver de la mort. C'est, à mon avis, ce que fait Judas, sa manière, ce que je vous avais expliqué l'an dernier. Peut-être qu'en vendant Jésus, il se dit, bien, il finira en prison, mais au moins, il ne se fera pas lapider. Ben, ça marche aussi mal. Mais notez que pour Judas, ça avait fonctionné du temps de Judas, qui avait sauvé son frère Joseph en le vendant à des gens qui étaient de passage. Et ça a évité que ses frères l'achèvent. Mais malheureusement, l'histoire ne se répète pas comme ça. Enfin, malheureusement, heureusement, bien entendu. Mais c'est que là, en l'occurrence, il ne suffit pas de refaire les recettes du passé pour que ça fonctionne à l'identique. Donc, ici, à mon avis, ce n'est pas un supplice qui précéderait la croix. C'est une peine en soi. C'est peut-être l'idée selon laquelle, bon ben voilà, ça y est, il a été puni, c'est bon, on peut passer à autre chose. Et ensuite, il va y avoir tout un dispositif pour présenter Jésus comme un homme humilié, un roi ridicule, avec une couronne d'épines, un manteau de pourpre, des salutations ironiques et des soufflets. Eh bien, quand on regarde bien, il y a tout ce qu'il faut pour un vrai sacre, une vraie intronisation, un vrai adoubement, même la claque qu'on donnait au chevalier. Ce qui paraît que quand il y avait un adoubement, on donnait une claque au chevalier. Ce que l'on fait encore à la confirmation. À la confirmation, pas ici. Quoique, ça me donne des idées. Il faudrait que j'en parle au conseil presbytère à l'avance, parce que bon, après on peut avoir des problèmes au plan pénal. Mais la claque, dans l'Église catholique, il y a une claque à la confirmation, en principe. Et les chevaliers, quand ils étaient adoubés, ils avaient une claque. C'est, je me trompe pas, enfin. Il y avait l'épée comme ça, mais il y avait aussi. Ah, je crois, ouais. Sauf, bon. Oui.
Voilà. Tandis que les soufflets, tandis que la couronne d'épines, etc., c'est le peuple qui se déchaîne. Voilà.
Les soldats, oui. Oui, ils se défoulent.
Non, ils veulent l'abaisser.
Non, bien sûr, ça dit autre chose, et c'est là où l'ironie peut faire toute son œuvre, c'est que eux vont vouloir humilier Jésus, et en fait, ils vont en faire un véritable homme, un j'ai lâché l'affaire, zut. Ils vont en faire un véritable roi. On est dans l'ironie. Ça veut dire que la royauté de Jésus ne peut être que d'ordre carnavalesque aux yeux du monde. Hein, puisque l'ironie, elle fonctionne sur l'inverse. Donc, ça ne peut pas être un sacre à la mode de Napoléon, extrêmement somptueux, majestueux, etc. Ça doit être carnavalesque pour que ce soit authentique.
C'était un peu carnavalesque aussi, hein?
Napoléon, oui, on peut dire ça aussi. Oui. Ah oui, c'est une sorte de parodie.
C'est une
parodie. Et alors, on passe à la section suivante, les versets 4 à 7. Et donc, à l'intérieur, il y a cette intronisation, et puis après, il est porté à l'extérieur. Et c'est là qu'on va avoir cette phrase de Pilate, Ecce homo en latin. Voici l'homme, qui est à double sens. C'est-à-dire que, bon, voici l'homme dont il est question au sujet de la condamnation, l'accusation, etc. Mais en fait, ô anthropos, c'est voici l'homme dans tout son éclat. Voici l'archétype de ce qu'est l'homme. Voici l'homme totalement. Voici l'homme comme vous n'en verrez peut-être jamais d'autre. Oui, voici l'humanité en fait. Voici la véritable humanité. Et Pilate, là aussi, est détenteur d'une vérité qui le dépasse largement.
Et alors, comme si ce n'était pas suffisant, les Juifs, au verset 7, montent d'un cran. Jusqu'à présent, leur argument, c'était il se fait dire qu'il est le roi des Juifs.
Oui.
Donc à ce titre, il faut le condamner. Hein, et au verset 7, ils disent il s'est fait fils de Dieu. Et alors, moi, je trouve que ça pose vraiment un problème de logique, parce que nous, tout le monde peut se déclarer fils de Dieu. Enfin, si on a à la fois fils de Dieu. Et j'imagine que c'était aussi le cas du temps de Jésus. Enfin,
non, il y a une polémique à ce sujet. Et on
est fils de Dieu, ça veut presque dire, c'est fait Dieu lui-même. Ça veut dire quelqu'un qui se déclare fils de Dieu, c'est comme s'il se déclarait Dieu lui-même.
Ouais. Dans la langue sémitique, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour dire un homme, on dit un fils d'homme. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des expressions comme fils de chien, etc. C'est-à-dire chien toi-même, en fait. Et donc, fils de Dieu, effectivement, ça veut dire Dieu, dans une certaine mesure. Mais il y a une polémique. Il y a eu une polémique par le passé entre quelques-uns et Jésus. Jésus qui, du coup, est obligé de se rapporter à l'Ancien Testament, enfin au Premier Testament, en disant, mais est-ce qu'il n'est pas écrit que, justement, vous serez comme des dieux ? Ou de parler aussi de... des fils de Dieu du temps de David. C'est une expression qui existe, en fait, déjà. Donc, cette expression existe, mais elle a perdu son usage.
Est-ce que c'était un blasphème de dire, s'intituler fils de Dieu ?
Certainement, dans la mesure où il y avait une telle concentration de la figure sacrale sur le clergé, que quelqu'un comme ça qui se serait déclaré ou qui aurait été déclaré fils de Dieu aurait été considéré comme blasphémateur.
Parce que, voilà, si on reprend la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit,
ouais.
La différence entre Dieu le Fils et fils de Dieu,
ouais. Non, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs Jean n'en parle pas. C'est pour ça que les textes bibliques n'en parlent pas d'ailleurs non plus. C'est-à-dire que cet aspect, enfin cette construction trinitaire, elle vient a posteriori pour essayer de parler du divin, mais c'est pas la manière que la Bible a d'en parler. Ici, on voit que Jésus va parler de la royauté, va parler de son père, hein, va parler de la paternité. Il y a l'histoire de Barabbas aussi. Mais ça ne se joue pas dans comment, dans une triade, les choses se répartiraient ou s'organiseraient. La question de la Trinité n'intervient pas du tout, en fait, là, ni ailleurs. Ouais. C'est une construction, oui, postérieure. Et vous voyez, quand je vous dis que Pilate fait de son mieux, mais le problème, c'est qu'il utilise les recettes éculées. Et on ne peut pas les reproduire comme ça identique. Quand il dit, bon, bah, prenez-le vous-même et crucifiez-le, il fait quoi, dans une certaine mesure? Il fait ce que Jésus avait fait un peu plus tôt dans l'évangile de Jean avec la femme adultère. Bah, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Bon, bah, sauf que là, tchoum, ils vont le crucifier, quoi. Bah, ils ne vont pas se... C'est-à-dire que la différence, c'est que Jésus était entouré par des pharisiens. Les pharisiens, c'est des gens plutôt bien, en fait. C'est-à-dire que quand Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, bon, ben, les pharisiens sont honnêtes. Ils ont péché, ben, ils ne jettent pas la première pierre. Mais là, ils sont fous furieux. La haine, c'est contre l'intelligence. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Et ben, du coup, ils sont obligés de trouver une parade. Parce qu'ils ne peuvent pas lâcher le morceau. Ils ne lâchent rien. Et alors, du coup, il trouve cette parade. Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il se fait fils de Dieu. Poum, c'est l'escalade. Vous voyez ? Et du coup, poum, on va arriver au brigand, quoi. Ben, en fait, ils vont l'accuser de blasphème. C'est-à-dire qu'au départ, on est sur un droit commun, malfaiteur. Et puis là, maintenant, on est sur une histoire de blasphème. Ouais. La séquence suivante, donc 8-12, c'est la deuxième interrogatoire où on permet d'approfondir un peu la question du pouvoir, et notamment de l'origine du pouvoir. Et il va y avoir un silence de Jésus qui correspond bien au trait johannique d'un Christ qui n'entre pas en débat avec les incroyants sur sa messianité. Et pourquoi est-ce que le Messie n'entre pas en débat sur sa messianité avec les incroyants dans l'évangile de Jean? C'est parce que toute réponse directe de sa part ne serait que malentendue. Et ça, on le trouve un peu plus tôt dans l'évangile de Jean. C'est au chapitre 10, les versets 24 à 25. C'est-à-dire que c'est une sorte de pédagogie. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspense ? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Et Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage, mais vous, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas des brebis. » C'est-à-dire qu'en fait, Jésus ne perd pas son temps, quoi. Il sait que ça ne va pas marcher, ce n'est pas compréhensible. Et en fait, il ne veut pas entrer dans une logique du débat qui risquerait d'ajouter de la violence à la violence. Et c'est en ce sens que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, c'est qu'en fait sa royauté n'est pas de ce monde, au sens que sa puissance n'est pas celle qui est exercée par les tenants du pouvoir. Il n'a pas une prétention à détenir totalement le pouvoir, et en fait il n'a pas cette capacité de contraindre l'autre à comprendre. Dans ce sens qu'il n'est pas tout-puissant, notre Jésus. C'est qu'il n'a pas la capacité, un, à se libérer comme cela de cet étau qui est en train de l'enserrer. Et il n'a même pas la capacité non plus de faire accéder quelqu'un spontanément ou rapidement à la vérité. Et donc, plutôt que d'entretenir un malentendu qui n'ajouterait que de la violence à la violence, parce qu'on est très frustré quand on ne comprend pas, et bien finalement, il prend le silence qui absorbe la violence. Comme il l'avait fait au moment de la femme adultère, où il avait finalement baissé le regard, il avait écrit par terre, c'était une façon d'absorber la violence de la foule. Oui. Oui. Oui, bien sûr.
Jésus, donc, Pilate l'a abandonné, il y a eu des soupçons, il y a eu des dîmes, etc. Et puis, sur le verset 7, donc, il dit la suite de Dieu. Et à ce moment-là, il y a un nouveau retournement de situation. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur en tout cas. Et on a l'impression que c'est là hein, qu'il y a, un point de rupture.
Il perd la main, en fait, et il se rend compte.
Il rentre dans le prétoire, brusquement, puis il dit à Jésus, mais d'où es-tu ? Il prend peur, il est paniqué, là.
Absolument, oui. Et puis on arrive à la fin, c'est-à-dire qu'en fait, on en est à la dernière séquence où il se rend compte qu'il faut en finir avec cette histoire, et c'est lui qui doit lâcher prise. Et tant pis pour l'innocence de ce condamné, quoi. C'est-à-dire que...
Ouais. L'accusation, il s'est fait fils de Dieu. Pour lui, on a l'impression que c'est bien autre chose que d'être le roi des Juifs.
Mais le problème, c'est qu'il voit que la mauvaise foi, enfin, je ne sais pas s'il voit la mauvaise foi, mais en tout cas, il voit qu'il y a une escalade et qu'en fait, il ne va pas pouvoir se dégager de cette situation-là. Et que la seule façon pour lui de s'en sortir, ça va être justement de donner raison aux accusateurs. Parce qu'ils mettent en jeu sa loyauté vis-à-vis de Rome. Et donc, ils mettent en jeu sa propre situation, son propre poste et sa propre autorité. En fait, ils le font chanter.
Quand on reste sur l'accusation de roi des Juifs, donc effectivement, ils mettent leur temps. Mais là, on a l'impression que le fait de passer dans le surnaturel et de parler de fils de Dieu, alors là, ça ne met plus en jeu sa position vis-à-vis de Rome. Hein, c'est dans un autre registre.
Mais. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait cette question sur on ne peut pas le faire mourir, et puis là, ils disent maintenant, on peut le faire mourir, selon notre loi. Donc, vous voyez, il y a un déferlement de la violence qui submerge Pilate. Et il se dit que... Là aussi, il se dit certainement qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt qu'il y a un embrasement.
On a l'impression que à chaque argument de Pilate, les Juifs en
Ils en remettent une couche, oui. Et alors, à la fois, ils en remettent une couche sur le plan de l'accusation, mais ils en remettent une couche sur le plan de leur propre condamnation. Et on le voit là dans cette dernière séquence, les versets 13 à 16a. c'est qu'au fond, il va y avoir un prix extrêmement lourd à payer pour eux. C'est le verset 15. Parce qu'en fait, Pilate place les Juifs devant un dilemme. Soit Jésus n'est pas roi et il ne faut pas le crucifier, soit il est roi et les Juifs feraient mourir celui qui doit les libérer. Et au fond, oui, il les met devant une double contrainte. Et même la double contrainte, elle ne marche pas. Il continue en disant « ôte-le, ôte-le, crucifie-le ». C'est-à-dire que même la pragmatique du discours à la Paul Václavic, ça ne fonctionne pas avec cette haine-là. Et que font-ils en disant « crucifie-le, crucifie-le » en dépit de ce que vient de dire Pilate ? Eh bien, le prix à payer va être vraiment catastrophique sur le plan théologique, sur le plan symbolique. Nous n'avons pas de roi si ce n'est César. C'est un acte d'allégeance en bonne et due forme. Et c'est aussi un renoncement à leur foi israélite. C'est-à-dire que c'est contraire à tout ce qu'ont fait les prophètes par le passé. Daniel, le fameux livre de Daniel, le chapitre 1, c'est Daniel qui refuse de manger à cette table-là parce qu'il est hors de question qu'il se souille, quoi. Enfin, qu'il renonce à sa judaïté. Mardoché, dans le livre d'Esther, il est hors de question qu'il s'agenouille devant Aman. Parce qu'on ne se prosterne que devant Dieu, et ainsi de suite. Il renonce à son héritage, le grand prêtre, là.
Mais là, on peut dire que toute cette dramaturgie vient de ce qu'on est dans la période du sabbat, et que les Juifs sont coincés par ça.
Non, pendant le sabbat, on a le droit de faire le bien, disait Jésus. Ils ne sont pas du tout coincés. Enfin, ils ne sont pas coincés par le sabbat. Mais c'est ce que tu disais, tout le monde se renvoie la balle parce que personne ne veut se mouiller avec ça.
Est-ce que c'est pas à cause parce que c'est le sabbat ?
Non, là ils ne sont pas coincés par le sabbat dans cet épisode-là comme ça. Là. C'est plutôt un problème moral. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que la souillure, en fait, c'est une souillure morale. C'est une tâche après. Et c'est indélébile. Et ce que l'évangéliste Jean essaie de mettre en évidence, c'est justement cette logique implacable dans laquelle ils se sont mis. Et au fond, ils font tout ce qui est contraire à la foi, quelle que soit la foi. La foi, c'est justement ce moment où on peut briser ce cercle vicieux de la violence, où on peut lâcher quelque chose. Et tout ce texte est construit sur la question du lâcher. Relâcher Jésus. Et c'est paradidomie. C'est un mot qu'on utilise parfois pour le pardon. Paradidomie. Moi, ils disent, mais... voilà, il s'agit de le relâcher. On pourrait presque dire, il s'agit de le pardonner. Mais eux, ils disent, si ce n'était pas malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré, nous ne te l'aurions pas pardonné. Enfin, c'est-à-dire que ils sont crispés. Enfin, il y a un intégrisme là. Mais c'est qu'en fait, ils ont leurs strapontins qui sont en jeu. Sur l'attitude bienfaisante de Pilate, qui a été peut-être gommée aussi par les âges, vous rendez attentif au verset 10. Un tout petit détail, mais c'est amusant. Le verset 10, Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas ?» Et la phrase suivante, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Sur le plan de la pragmatique du discours, ça signifie qu'on pourrait comprendre qu'en fait, il a plutôt envie de le crucifier. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» C'est son intention, mais j'ai aussi le pouvoir de te relâcher. Dans le grec, c'est l'inverse en fait. Dans le grec, c'est « ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» C'est-à-dire que l'intention première dans le grec, c'est de relâcher. Et c'est désigné là. Alors que le français l'a inversé. Ben ça, j'en sais rien, moi. Chez Segond, c'est comme ça. Oui. Je vous écoute.
Bien trouver des explications en charge de
le second, l'autre.
Parce que dans la taupe, c'est dans le bon sens, par exemple.
Dans la seconde, c'est...
Ah, ben non, pas dans la taupe. Non, pas dans la taupe. Dans la taupe, il dit, je vais pouvoir te relâcher d'abord.
Oui, mais c'est ça, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Parce que moi, ça, c'est une seconde non révisée. Voilà. D'accord, dans une seconde révisée, ça... D'accord. Donc, vous voyez, il peut y avoir comme ça des éléments. C'est quoi dans une synodale, par exemple, comme vous, Francine ? C'est le verset, chapitre 19, verset 10.
C'est une seconde, moi.
C'est une seconde aussi ? Bah, dites-nous un peu dans quel sens c'est dans cette édition-là. C'est verset 10, chapitre 19, verset 10. Est-ce qu'on a d'abord crucifié ou est-ce qu'on a d'abord relâché ? Voilà. Et ça, ça a formé des générations de parpaillots. Semper et Formanda. Ouais, passer des heures sur des textes qui ne sont pas les textes. C'est, vous savez que c'est pour des raisons comme celle-ci que des gens comme Schleyer, Maurer, mais encore plus Emerson, dont on parlait hier soir, se sont dit, mais... Le vrai n'est pas contenu exclusivement dans le texte biblique. Et qu'au fond, la parole de Dieu, elle déborde largement au-delà du texte biblique. Surtout ce genre de texte biblique qui sont quand même assez éloignés des textes bibliques. Enfin bon, vous voyez, ça nous met en alerte, quoi. Méfions-nous des contrefaçons. Oui. Ah ben non, je n'ai pas regardé ça du coup. Mais sur l'ordre, j'ai bon espoir que ce soit... Enfin, j'en sais rien, en fait. Oui. J'ai bon espoir que ce soit conservé, mais je ne sais pas. Faudrait vérifier. Bon, ben voilà, nous sommes au terme de ce procès de Jésus. Je vous laisse chez vous lire la crucifixion et la mise au tombeau. Et la fois prochaine, on s'occupe de Pâques et des conséquences de Pâques. Donc, le tombeau vide, et puis si on a le temps...